n'en voit pas vraiment la fin et ni les signes annonciateurs d'une fin pour l'instant.
Tentons un petit résumé rapide de ce qui ressort jusqu'ici. Le néolibéralisme, c'est d'abord une idée politique, portée par une série d'intellectuels libéraux, initiés déjà à la fin des années 30 et développée ensuite après la Seconde Guerre mondiale. Cette idée qu'il faut un nouveau libéralisme avec le marché comme valeur cardinale et un État veilleur pour en protéger le fonctionnement, va surtout rester au départ dans les salons feutrés des cercles de discussion, mais va finir par s'imposer politiquement à partir de la fin des années 70, au départ des États-Unis et de la Grande-Bretagne, en réaction aux politiques d'État-providence menées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce néolibéralisme se matérialise alors par des politiques de rigueur budgétaire, de réduction des dépenses publiques, de stimulation de l'offre via des allègements fiscaux et des réductions de cotisations sociales, le tout accompagné d'une promotion du libre-échange et de la déréglementation afin de favoriser au maximum la concurrence et améliorer l'efficacité du marché. Voilà pour le système qui a donc prévalu et s'est étendu ces dernières décennies dans une bonne partie du monde. Mais venons-en alors à la question qui anime cet épisode. Ce modèle néolibéral n'est-il pas en crise aujourd'hui? N'entre-t-il pas en collision avec les défis majeurs que sont la protection de l'environnement, la lutte contre le dérèglement climatique ou encore la résorption d'inégalités devenues gigantesques dans certains pays développés? J'ai décidé de reprendre mon petit vélo pour aller poser cette question à deux personnes qui suivent ces enjeux avec beaucoup d'attention, mais qui ont des profils bien différents. La sociologue du travail, Isabelle Ferreras, professeure à l'UC Louvain et présidente actuelle de l'Académie royale de Belgique, et Bruno Coleman, ancien patron d'une grande banque d'affaires et aujourd'hui associé au cabinet de conseil Roland Berger. Et je leur ai posé à tous les deux les mêmes questions. À commencer par celle-ci pour Isabelle Ferreras, si on est en crise aujourd'hui, crise énergétique, crise climatique, crise sociale à l'horizon, est-ce que c'est la faute du néolibéralisme?
Je dirais que le néolibéralisme a accentué le problème. Il n'est pas responsable du problème, mais il a accentué le problème parce qu'il nous a dépossédé des moyens de faire face au problème. Quel est le problème? Le problème, c'est que nous sommes dans un modèle de développement que je qualifierais de extractif, au sens très large du terme, c'est-à-dire l'extractivisme, évidemment, il se joue, et c'est le sens premier du terme, quand on va chercher dans les sols des ressources comme le charbon, par exemple. Mais en fait, quand on regarde la logique même du capitalisme, on voit qu'elle est vraiment articulée autour de l'idée d'aller chercher des ressources, des énergies, des moyens, jusqu'aux moyens humains, pour les tirer à son propre profit. Et de ce point de vue-là, pour moi, l'institution phare du capitalisme, ce n'est pas le marché, mais c'est la société anonyme, c'est-à-dire la construction d'une institution qui permet à certains d'aller chercher les ressources d'autrui, la planète bien sûr, mais les travailleurs en particulier, pour pouvoir générer un profit qui va être ensuite approprié, très légitimement, du point de vue de notre système de régulation du droit. La société anonyme est évidemment établie en droit belge et permet à ceux qui ont acheté des parts dans une société de pouvoir s'approprier les bénéfices qui sont construits au départ de l'investissement des travailleurs et de la planète.
Ok. Mais ce que nous décrit là Isabelle Ferreras, c'est le principe même du capitalisme et il n'a pas attendu les néolibéraux pour se développer. Sauf que, pour elle, le néolibéralisme dans son essence aggrave le problème en dépossédant les États et les citoyens de moyens d'agir et de réagir face à ce capitalisme extractif.
On prend le chemin, finalement, de donner plus de place au marché et de réduire les moyens qu'a l'État de s'emparer des enjeux communs. Et donc, on va aggraver notre problème.
Pour Isabelle Ferreras, donc, le néolibéralisme, s'il n'est pas à l'origine du problème, nous prive de solutions et donc fait partie du problème. Mais qu'en pense alors Bruno Coleman? Estime-t-il, lui aussi, que l'on doit au néolibéralisme d'en être arrivé à ce point-là, aujourd'hui, avec un modèle qui épuise les ressources tout en étant vecteur de fortes inégalités?
Oui, je crois, parce que l'économie de marché est fondée sur le fonctionnement des marchés. Et comment fonctionnent les marchés? Par anticipation de la richesse future. Donc en fait, on négocie dans un marché le futur. On négocie la valeur d'usance ou de nuisance des biens en actualisant, c'est-à-dire en ramenant en unité monétaire d'aujourd'hui, les flux futurs qui le seront associés. Et donc en fait, c'est un capitalisme d'aspiration du futur. Contrairement au capitalisme rhénan qu'on a connu dans les années 60 et 70, d'origine allemande, qui était un capitalisme de partage de ce qui était accompli. Donc en fait, le néolibéralisme a transformé le vecteur du temps en anticipant par la consommation immédiate, ce qui n'était pas encore produit. Et donc, cette anticipation se traduit parfaitement dans l'exploitation, la surexploitation de la nature. On veut une jouissance immédiate au détriment de la nature qui n'a pas le temps de se régénérer. Et par ailleurs, comme c'était un capitalisme d'anticipation, en fait, la valeur de l'humain est sa valeur circonstancielle du moment. Il n'y a pas de projet pour l'humain, sinon la force de travail qu'il peut apporter immédiatement. Et donc, c'est un système qui conduit bien sûr à épuiser l'humain. Finalement, le néolibéralisme ne s'intéresse pas à l'humain, qu'il considère comme une externalité. La seule limite de l'humain, finalement, c'est sa limite biologique. Et donc, c'est un capitalisme qui, par nature, est inégalitaire, non seulement par rapport au travail, mais aussi par rapport à la nature. Et donc, il entraîne, effectivement, des heurts sociaux potentiellement, donc il crée sa propre violence interne, il crée des violences écologiques, et tout ça d'ailleurs se synthétise très bien aux États-Unis, où en fait le néolibéralisme va de pair avec la mobilité parfaite du travail, qui est entraînée elle-même par son absence de protection étatique. Donc on ne protège pas le travail parce qu'on veut que le travail soit mobile, et donc le néolibéralisme volontairement subordonne l'humain, la nature et l'État bien sûr au fonctionnement des marchés financiers.
Eh bien, je dois dire que je ne m'attendais pas à une charge aussi lourde de la part de Bruno Coleman. Mais voit-il pour autant poindre à l'horizon une vraie remise en question du modèle néolibéral ?
Non, je ne vois pas sa fin, notamment aux États-Unis. Il n'a jamais été question aux États-Unis d'adopter un modèle keynésien ou un modèle plus socialisant. Par contre, en Europe, ce qu'on constate, c'est son incompatibilité avec le maintien de l'État social. C'est ça qu'on constate maintenant en Europe. On se rend compte que les équilibres qui avaient été patiemment construits après la guerre, en fait, sont incompatibles avec l'exigence ou l'intempérance de l'économie de marché. Et on ne s'en est pas rendu compte tout de suite parce que, dans les années 80, quand le néolibéralisme s'est déployé, on va dire, en Europe, nous n'étions, nous, citoyens, pas convaincus de l'efficacité de l'État. Il faut se souvenir qu'à l'époque, il fallait 6 mois pour avoir une ligne de téléphone, que les économies étaient poussiéreuses, avaient très 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 mal vécu les années 70. Et donc, on était content d'avoir un nouveau mode de pensée, mais on n'en a pas compris la conséquence, à savoir c'est l'inégalité sociale. Et le fait, je répète, que le néolibéralisme veut dépouiller l'État de quasiment toutes ses fonctions, dont par exemple la gestion des soins de santé ou même l'éducation. Aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a des universités publiques, mais globalement, les meilleures sont privées. Les soins de santé sont aussi privés. Et donc, on s'est rendu compte aujourd'hui qu'il y avait une incompatibilité entre le maintien des avantages sociaux et le mode de pensée de ce néolibéralisme.
Malgré cela, Bruno Coleman ne voit pas vraiment aujourd'hui de remise en cause fondamentale du modèle dans les faits. Et Isabelle Ferreras, de son côté, fait le même constat.
On voit bien qu'aujourd'hui, un Premier ministre, même libéral, ne peut pas décemment, sérieusement, dire à la population « Oui, face à cette crise des coûts de l'énergie, je vais faire plus confiance au marché. » Tout le monde rigolerait, il ne peut plus dire ça. Donc là, on voit bien que le néolibéralisme, en termes de légitimité, atteint ses limites. Maintenant, est-ce que dans le réel des décisions qui sont prises, les choses sont en train d'évoluer? C'est loin d'être évident. Je pense qu'on a vu, par exemple, que dans la crise du Covid, effectivement, on se rendait compte que, finalement, réguler la santé par le marché, c'était peut-être pas une bonne idée, que mettre les soignants sous pression de rendement, de nombre de lits, de nombre de patients, en fait, c'était peut-être pas la meilleure idée. Est-ce qu'on a changé, aujourd'hui, la régulation des hôpitaux? Non. Donc, on est face à un problème qui est très important, parce que c'est cette différence qu'il y a entre nous rendre compte, prendre la mesure du problème, comprendre son origine, et puis prendre des mesures qui seraient conformes à la nécessité de résoudre ce problème.
Et c'est là que ça coince aujourd'hui pour la chercheuse spécialiste en sociologie du travail. Mais comment expliquer cela ? Que malgré qu'une large partie de la population semble ne plus se reconnaître dans ce modèle de société régi par le marché, que malgré cela donc, les lignes politico-économiques bougent aussi peu.
Les idées sont toujours instrumentalisées par certains au profit de la conservation des positions de pouvoir existantes. Et donc, si on dit qu'on remet en question le néolibéralisme, eh bien, tout de suite, on va dire « Oh, mais attention, c'est dangereux, menace communiste, l'État tout-puissant qui va tout d'un coup prendre les décisions que vous, individus, vous devriez être capable de prendre. » Si vous regardez comment ça s'est passé quand Obama a voulu donner accès à tous les Américains aux soins de santé par une option public, hein, par juste le fait, pas, il voulait pas supprimer les assurances privées de santé, il voulait juste que les Américains qui voulaient pouvoir passer par l'État puissent avoir accès à un système de soins de santé qui est, c'est prouvé, mais noir sur blanc par tous les économistes de bonne foi du monde, qu'un système public de soins de santé est bien plus efficient au niveau de nos ressources et ça coûte beaucoup moins cher. Mais ça a été impossible. Et donc là, il y a vraiment un enjeu qui pour moi est vraiment l'enjeu démocratique de fond aujourd'hui. Il n'y a pas un enjeu plus important qui sera celui-là, c'est comment la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir de l'ensemble de la collectivité politique, va pouvoir s'organiser pour prendre en main les décisions qui les concernent.
Et revoilà une étonnante convergence avec ce que dit de son côté Bruno Coleman, qui en appelle lui aussi à une revitalisation démocratique comme condition sine qua non d'un changement vers un modèle qui remettrait l'État au centre du jeu.
Moi, je crois qu'on va devoir faire une rupture qui, en partie, sera dirigiste de cette fameuse notion d'État stratège qu'il faut réhabiliter, parce qu'on voit bien que le capitalisme ne sécrète pas ses propres corrections. Dans le cas de l'écologie, de l'environnement, du dérèglement climatique, de la biodiversité au sens large, on se rend bien compte que si un jour on va inventer une technique de capture du CO2, ce sera bien trop tard par rapport à ce qu'on a généré. Et donc, il faudra, je crois, un moment que l'État reprenne la main et surtout s'assure de restaurer des équilibres sociaux. Et moi, je pense que la réponse de l'État stratège devra avoir comme préalable la restauration d'une véritable démocratie. C'est-à-dire, nous ne sommes plus dans une démocratie représentative comme on avait pu l'imaginer dans le passé, nous sommes encore moins dans une démocratie participative. Et ce qui veut dire, c'est qu'on devrait avoir une réflexion large et longue, peut-être, au sein de chaque pays, pour savoir quel est le projet de société. Et seulement à ce moment-là, on peut faire des choix qui sont une réponse au marché. Mais tant qu'on n'a pas une expression cohérente de la société, tant qu'on n'a pas un consensus citoyen sur les grands débats contemporains, il sera impossible pour les États de s'imposer par rapport au marché. Donc, je répète, l'État stratège n'aura d'existence, de vie, pour autant qu'il y ait une rejouvence démocratique dans nos pays.
Oui, mais quelle rejouvence démocratique ? Pour avoir déjà consacré 2 séries de podcasts à ces enjeux, on voit bien que c'est un processus très long, très complexe, et qui se heurte aussi à une autre donnée de l'économie mondialisée. Les démocraties sont nationales, le marché économique, lui, est mondial. Au point d'ailleurs que certaines multinationales apparaissent aujourd'hui bien plus puissantes que la plupart des États.
Là, on fait face à un problème d'échelle. C'est que la plupart de nos problèmes aujourd'hui ne sont pas du tout, évidemment, ne relèvent pas de l'échelle nationale. On peut dire que l'échelle européenne est quand même une échelle très pertinente, mais la démocratie européenne n'est pas encore là. Et on en a encore moins une au niveau mondial. Pour sortir du néolibéralisme, il faudrait être capable d'avancer sur la démocratie au niveau mondial. Et ça, c'est une énorme utopie aujourd'hui, mais je pense une utopie qu'il faut absolument relancer, parce que pour faire face vraiment au bien de la planète et aux catastrophes qui sont déjà là, vous avez vu le Pakistan maintenant, nous avons besoin d'une vraie communauté politique mondiale qui prend en main son destin.
L'utopie, moteur essentiel pour faire avancer la démocratie, mais avec en parallèle le temps qui s'égrène pour une planète dont la biodiversité s'effondre et dont le climat se dérègle de plus en plus. On reviendra